écoutez présentement Radio H.
Hey, bonsoir tout le monde, ok? C'est Tony qui vous parle, ok? Approchez-vous, venez-vous-en, ça c'est mon kiosque, c'est ok? J'ai un petit projet à vous présenter, la radio H2O, j'ai tout plein d'affaires à vous présenter. Venez voir, c'est bien bien le fun, ok? Toi, viens ici, toi, j'ai quelque chose à te présenter.
As-tu des crêpes de fromage, toi?
J'en ai des crêpes de fromage,
hein? As-tu des crêpes de radio H2O, toi? Hein?
Hey, j'en ai pas mal de radio H2O, t'en veux-tu un petit peu?
Va t'en prendre, crêpes de radio H2O, hey!
Moi, j'ai des bonnes émissions, j'ai les 777 ici, j'ai les ADDMP, c'est une gang de Mongols, j'ai deux gars et une fille, on a tout plein d'émissions, c'est qu'est-ce que tu veux une pieuvre, on va t'en donner une pieuvre,
j'en veux une pieuvre Aldress, moi, t'en as-tu des Aldress?
On en a des Aldress, il parle totalement n'importe quoi, style. Il va te parler d'informatique, il va te parler de filles, même s'il pas que les filles, c'est pas grave, s'il y en a les émissions.
Moi, c'est des technopolitiques, t'en étais des technopolitiques, hein?
Ah, le craquel, il y en a de technopolitiques pour toi, tu vas voir, c'est. Hey, on a aussi un autre craqué mental, là, qui s'appelle Néo, il pense à des affaires extraterrestres tout le temps, c'est bon pour toi aussi, tu vas aimer ça, tu vas voir.
Ah, c'est bon ça, hein, puis ça coûte cher ça, c'est pas cher.
Seulement 12 paiements de 19,95$,
t'en prends 15, hein?
T'en prends 15, m'a donné un free t-shirt en plus.
Radio H2O, une gourde d'informations parmi le désert médiatique. Radio H2O, une gourde d'informations parmi le désert médiatique.
Ça marche pas, c'est quoi qui se passe, mon stratisage de ça?
Enseignement, information, éveil, conscience, sérieux, pas sérieux, radio H2O.
You don't know the power of the dark side.
Direct de nulle part. C'est EDDNP.net. Vendredi 20h. Nous sommes en direct de nulle part sur Twitter /EDDNP. Live le vendredi 20h.
Ok, c'est bon, merci, T-Dark, merci, ok, c'est beau, merci, on a assez, T-Dark, c'est beau.
Très bien. Je me retire dans ma loge noire.
Vous vous intéressez à la croissance personnelle et à l'éveil de votre conscience? Eh bien, le monde selon Néo de Québec est pour vous. Cette émission est diffusée tous les mercredis soirs de 19h à 22h, heure du Québec, sur les ondes de radioh2o.ca.
On a un petit problème, je vais vous mettre en attente, on revient tout de suite.
Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul. Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul. Une présence inconnue. Jusqu'à ce que j'en peux plus.
Ah bon, c'est réparé, nous revenons, je repars tout ça.
Going live!
Radio H2O, fier commanditaire du camp de bûcheron aux deux H.
C'est bon.
Ah oui, il prend le tape.
Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, please welcome le H2O Show avec qui? Key...
gargales.
Hello tout le monde, on est le 30 avril 2012 et il n'y a pas de Q3. Et Q3, on l'a perdu, façon de parler, juste blague, là, il va revenir dans la semaine. Ça se pourrait qu'il y ait peut-être quelques émissions qui vont manquer dans la semaine, je ne sais pas trop comment ça va aller exactement. C'est que, comment je peux dire ça, il y a de quoi, faut que je m'occupe, puis Q3 aussi, mais les émissions n'arrêtent pas nécessairement, là, ils vont en avoir toutes les semaines. Là. Ça s'est coulé dans le béton. Puis, ici, il fait beau. Il y a eu une tournade dans le Limousin que j'avais attendu dire. J'ai lu, je veux dire, c'était assez spécial. Mais avant ça, je vais passer une petite vidéo, ben, l'audio, d'un qui n'est pas tellement heureux de char. Ça va être assez spécial. Ça va partir dans quelques secondes. Ça finissait que... Excusez, j'étais un peu fort. Ça finissait que son vidéo. ça, c'est sur YouTube. Il faut que j'essaie de trouver le URL. Le gars a complètement disjoncté. En plus, c'est carrément des menaces, finalement, qu'il fait. On sait que présentement, il y a la fameuse grève étudiante. Et le lien. Bon, ça y est. Je ne sais pas comment il avait utilisé ça. C'était... On peut le retrouver sur... Un fou furieux menace de tuer Jean Charest. On trouve ça sur YouTube. C'est assez spécial, pas fort. Ouais, ben là, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de Q3, ça fait que c'est moi l'animateur. Attends une petite minute, puis il faut que je m'aligne sur les affaires. J'ai pas tellement eu le temps d'en regarder comme il faut, mais je me suis ramassé de la nouvelle. Ouais, il y aurait une nouvelle... Régional, dans les 10 minutes, je vais vous copier ça, pris sur Conscience du peuple. Une personnalité publique du Québec, Patricia Tulance, en tout cas, désolé de démassacrer le nom, témoigne de l'État policier qui sévit à Montréal lors des manifestations étudiantes. Patricia a dépeint exactement ce qui est devenu l'endroit de manifestation. Un projectile lancé sur une vitrine est un acte suffisant pour que la manifestation soit déclarée illégale. Pour les policiers, chargent les militants avec force et violence. Une autre personnalité publique, Alexis Martin, est arrêté et détenu par les policiers lorsqu'il ne fait même pas partie des manifestations. Ouais, il commence mal. Ça continue comme ça, je vais vous passer la vidéo.
Madame, bonjour.
Bonjour, M. Poirier.
Allez-y, concernant ce qui s'est passé. D'abord, on sait que vous vous êtes impliqué dans beaucoup de dossiers.
Vous n'êtes pas une femme violente. Au contraire, vous dénoncez la violence.
Absolument.
Qu'est-ce qui se passe mercredi soir dernier?
Alors moi, j'ai décidé de rejoindre la manifestation spontanée après avoir vu des reportages sur LCN, justement. Et avec mon cousin, on a décidé de se rejoindre à la manifestation en appui aux étudiants parce que moi, vraiment, j'écoutais les commentaires de votre boîte vocale et je ne comprends pas qu'on ne soutienne pas les étudiants. L'éducation, c'est primordial. Et qu'est-ce qu'on veut comme société? Une société de gens sur le bien-être social ou une société de gens qui vont être éduqués et qui vont participer à l'avenir du Québec? Donc moi, vraiment, je soutiens cette lutte à 100% et j'ai décidé de me joindre à la manifestation mercredi. Donc nous partons, nous avons rejoint la manifestation sur Sherbrooke dans l'Ouest et ensuite on a bifurqué sur Sainte-Catherine. Et quand on est arrivé sur Sainte-Catherine, on a entendu effectivement une voix avec un haut-parleur déclarer la manifestation illégale. Mais M. Poirier, il y a 10 000 personnes dans cette manifestation.
Ah ouais.
Nous, on l'a entendu parce qu'on était à côté, mais c'est sûr que 300 mètres plus loin, personne n'a entendu. Fait que les gens ne savent pas que la manifestation est déclarée illégale. Donc, les gens continuent à marcher et c'est là que les policiers commencent à charger avec leurs chevaux. Évidemment, il y a un mouvement de panique. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est vraiment impressionnant de les voir arriver sur leurs chevaux.
J'ai déjà vécu ça dans le passé, même si c'est sur le terrain pour couvrir l'événement. Il y a de la panique, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Mais il y a non seulement un sentiment de panique, mais en plus un sentiment d'injustice, parce qu'on se demande ce qu'on a fait. Moi, vous savez, j'ai entendu parler de la casse et tout ça, mais je n'ai rien vu. Personnellement, moi, ce que j'ai vu, c'est une manifestation pacifique, des gens qui discutaient, c'était assez joyeux, c'était convivial. Moi, je n'ai vu aucun acte de violence. La violence que j'ai vue, elle venait des policiers. Alors, on a commencé à se faire charger, donc les chevaux, les policiers casqués avec leurs boucliers, leurs matraques, ça fait très peur. Donc, forcément, il y a un mouvement de panique. Et un peu un mouvement de révolte aussi. Alors là, la manifestation s'est dispersée en deux groupes, et à un moment donné, les deux groupes se sont rejoints sur Sherbrooke. Alors là, on a décidé de continuer de descendre Sherbrooke en direction de Saint-Denis. On a tourné sur Saint-Denis, et quand on est arrivé sur René-Lévesque, là, les premières bombes lacrymogènes ont éclaté. Là, autre mouvement de panique. Et là, toujours, il s'était rien passé. Là, moi, j'avais vu aucun acte de violence de la part des étudiants. Mais tout à coup, ces bombes lacrymogènes, de la fumée, on commence à avoir mal aux yeux, on a mal aux poumons. Là, il y a un petit moment de panique. On s'en va tous sur René Lévesque. Et là, les policiers décident de charger. Et là, vraiment, M. Poirier, là, j'ai vraiment eu la peur de ma vie parce que on sait pas ce qui arrive. On le sait pas. Il y a personne qui est averti. Il y a pas de sommation. Les gens qui, tout à coup, marchaient, là, ça devient une émeute. Et là, on court partout et c'est dangereux. Les gens se bousculent. Nous, on a réussi. Moi, j'étais avec deux professeurs contre la hausse. Donc, on a réussi, nous, à se faufiler dans une ruelle. Mais là, les policiers avec des matraques nous poursuivaient. On a réussi à se cacher derrière une barricade. Vraiment, moi, j'avais peur. Là, je me suis dit, ça y est, je me fais tuer, c'est pas possible. Là, je me cache en arrière d'une barricade. La barricade s'écroule. On est donc à vue. Les deux professeurs, il y avait deux, trois jeunes avec nous. Et deux policiers rentrent dans la ruelle avec leurs matraques, leurs boucliers, très menaçants. Et s'avance vers nous. Et là, moi, j'ai dit non. Là, ça va faire. J'ai pas envie de me faire matraquer à soir. Là, on a fait un geste d'apaisement. On leur a dit, on s'en va. Nous dispersons. Partez. Ils ont hésité. Et finalement, ils ont décidé de retourner vers la manifestation. Et j'ai vu des gens se faire matraquer. Des gens qui couraient se faire matraquer. Et ça, vraiment, je me suis dit, mais dans quel état on est? On est dans une dictature ou quoi? On n'a plus le droit de manifester. C'est un droit légitime de manifester. C'est un droit démocratique. Et moi, ce que j'ai vu, je vous le garantis, je n'ai vu aucun acte de violence de la part des étudiants. Et j'ai trouvé la violence des policiers totalement gratuite et injustifiée. D'autant plus que la majorité des gens qui couraient n'étaient pas au courant que la manifestation avait été déclarée illégale.
Non, et ça m'a été rapporté par plusieurs personnes. Puis quand j'ai interrogé le lieutenant Yann Lafrenière, hier, porte-parole des relations publiques, lui aussi avait entendu parler de ça, parce que quand on déclare la manifestation illégale, c'est sûr que, comme vous dites, si vous êtes au début, là, près des policiers, vous l'entendez, mais si vous êtes à 300, 400, 500 pieds, vous ne l'entendez pas. Est-ce que vous avez été arrêté, non?
Moi, j'ai pas été arrêtée, mais sincèrement, j'ai eu la peur de ma vie parce que je me suis retrouvée prise dans une souricière. Il y avait beaucoup de gens, parce que la police, hein, ils ont des tactiques, évidemment. Et puis, alors, ils nous coincent et là, on se retrouve dans des ruelles, dans des endroits où on peut pas se sauver. Et sincèrement, moi, j'ai eu la peur de ma vie et j'aurais pu très bien les arrêter parce que j'ai vu des gens se faire arrêter, mais de façon tout à fait arbitraire. Donc, moi, si les deux policiers avaient décidé qu'ils continuaient et qu'ils se dirigeaient vers nous puis qu'ils nous arrêtaient, ils auraient très bien pu le faire. Or, il se trouve qu'ils ont décidé de rebrousser chemin puis d'aller de poursuivre ceux qui couraient en avant. Alors, nous, on a été sauvés, mais franchement, je ne sais pas pourquoi, parce que j'aurais très bien pu être arrêtée aussi. Je me sentais totalement démunie. On était totalement désarmés, hein, vous savez. Il y a personne qui a nos seules armes. Le professeur avait une pancarte et c'est à peu près tout, là. Alors, on est totalement désarmés, on n'a rien fait de mal, et on se trouve tout à coup pris dans une souricière avec des gens extrêmement menaçants. Et il y a une tension, M. Poirier, là.
Oui, justement, ça m'amène à vous poser la question. Est-ce que ça vous inquiète présentement, le climat social à Montréal? Et selon vous, vous êtes quand même une personne d'expérience mûre, sans vous vieillir, qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver la solution?
Écoutez, M. Poirier, moi, j'ai l'impression, enfin, c'est mon impression, j'ai l'impression que l'intransigeance du gouvernement, ça devient de l'irresponsabilité face à un problème qui devient grandissant. Ces négociations, elles devraient avoir lieu. Je peux pas croire qu'en 90, on a été capable de négocier avec les Mohawks, qui avaient des mitraillettes dans les mains, puis qu'on a réglé le problème, puis que face à Gabriel Nadeau-Dubois, qui est un garçon formidable, soit dit en passant, là, tout à coup, ça devient l'ennemi public numéro un, et ce jeune homme, on est incapable de négocier avec lui, puis ça, et avec la classe. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit bien que M. Charest, malheureusement, se sert de ces manifestations pour peut-être faire oublier son bilan désastreux, on va dire, et puis peut-être pour défocusser sur les vrais problèmes qui sont ailleurs, qui sont la collusion, la corruption, qui sont le plan Nord. Tout ça, on n'en parle pas parce qu'on est focusé sur les manifestations étudiantes. Moi, j'ai l'impression que le gouvernement se sert de ce mouvement-là pour justement préparer l'opinion publique aux élections et fait tout pour que ça dégénère, en effet, pour que les gens, comme on l'a entendu sur votre boîte vocale, se disent indignés de la révolte étudiante. Moi, c'est bien d'autres choses qui m'indignent en ce moment, M. Charest. C'est l'inaction, M. Poirier, c'est l'inaction de M. Charest dans bien des dossiers en ce moment au gouvernement. Et je pense qu'on devrait se focusser là-dessus plutôt que de s'en prendre à ces étudiants et qui n'ont pas, c'est pas un privilège d'étudier. C'est une obligation. C'est une obligation pour notre avenir. C'est une obligation pour notre Québec qui est en voie de d'extinction quasiment parce qu'on fait rien puis qu'on laisse les étudiants se... Moi, je suis révoltée par ça. Je suis désolée. Et quand je suis revenue de cette manifestation, moi qui étais une sympathisante, je suis devenue vraiment très engagée dans le mouvement, je vous le dis. Et moi, je suis de tout cœur avec les étudiants parce que je suis révoltée de la façon dont on les traite en ce moment. C'est notre avenir qui est en jeu. Puis c'est, on doit vraiment faire tout ce qui est en notre pouvoir pour permettre à ces jeunes-là d'étudier parce que c'est fondamental. L'éducation, c'est pas un privilège, c'est une obligation. On a le devoir de donner à nos jeunes la possibilité de s'éduquer et de construire un avenir meilleur pour le Québec.
Merci de nous avoir permis de vous rejoindre, Mme Patricia Tulane.
C'était peut-être un petit peu long, mais par contre, je trouvais que ça décrivait bien quand même comment ça se passait versus l'autre tweet qui menace Jean Charest. Il n'est pas fort, ça. C'est d'un bord comme de l'autre. Il y a des dérives. On va vous trouver une autre nouvelle. Je ne sais pas si c'est vraiment bon. C'est pris sur la conscience du peuple. C'est à propos du building, le remplacement du World Trade Center, les tours jumelles. Le One World Trade Center, pour remplacer les tours jumelles, la tour de Babel et Babylone la Grande. Drôle de titre. Le One World Trade Center, il faut s'habituer, parfois abrégé 1WTC, anciennement nommé Freedom Tower ou Tour de la Liberté, est la tour centrale du nouveau complexe du World Trade Center qui vise à combler l'immense espace laissé par l'anéantissement du précédent complexe lors des attentats du 11 septembre. Situé au sud de l'île de Manhattan, de Lower Manhattan, ce site, aussi appelé Ground Zero, a une superficie de 65 000 mètres carrés. La tour est l'œuvre de l'architecte Kidmore, Warning and Merrill de Chicago. Elle culminera à 1776 pieds, rappelant l'année d'indépendance des États-Unis, soit 541 mètres, et elle se situe au coin de ouest du site. Les travaux qui ont débuté en avril 2006 devraient être achevés en 2000... Oh, il y a une erreur. En 2000... En 20131, ils sont malades. Il y a une erreur. En tout cas, ça date de 2013. La tour sera composée de 108 étages depuis décembre 2011. La tour est la plus haute du Lower Manhattan. La tour devrait être achevée en 2013. Il s'agira alors de la plus haute tour des États-Unis. La construction de la Chicago Spire, initialement prévue pour 2012, ayant été annulée en raison des difficultés financières.
C'est, puis c'est ça l'article, je ne sais pas pourquoi appelle ça la nouvelle Babylone. Ça, il y a un petit quelque chose qui manque là-dessus. Nouvelle internationale, là. Oui, il y a Rand Paul qui prévient d'un false flag. Ça, j'avoue, c'est intriguant. Attends une petite minute, je vous colle ça dans la salle de Minou. Puis je vais aller cliquer sur le lien. Rand Paul, candidat aux élections présidentielles, met en garde les Américains contre une attaque false flag, entre parenthèses. Je ne suis pas un adepte de Rand Paul, mais il faut dire que c'est plus, le plus sensé de tous les hommes politiques que la Terre porte en ce moment. Pour l'explication d'un first flag, cliquez ici. Et là, il y a une vidéo, on va cliquer dessus, on va voir. C'est constant en anglais.
They do the same thing with foreign policy. They come along and they don't talk about non-intervention and minding our own business. They say, oh, you guys are a bunch of isolationists. You don't want to talk to anybody. But guess what? The very people who tell us that we're the isolationists are the ones who are always looking around for another enemy to slay and put on sanctions and start another war. They're the ones who don't want to trade with Cuba. We're the ones that think that it's time to engage in the world and to talk to people and trade with people. So they will try to paint us as uncaring. But let me tell you, people who care will care about liberty. And this will never translate into an absolute majority, but I'm certain that our numbers are growing by leaps and bounds. These prairie fires of freedom are being spread, and there's nothing but good news out there, precariously so, because we don't know exactly. We may have something happen. There may be a false flag incident where some ship goes down and you'd be used for the excuse to accelerate the next war. And we have to learn to distinguish war propaganda from the truth.
Dr. Paul, today's headline story on Infowars.com is about how the government is planning to secretly evacuate Chicago during the upcoming NATO summit in May. Do you have any comments about that?
I haven't seen that, but I don't know exactly what's behind all that. But those kind of statements concern me.
Could there be potentially another false flag event?
I'm always worried about false flags.
We got to get going.
C'est ça, en gros, j'ai pas tout suivi que c'était en anglais, puis j'essaie de rattraper en regardant les commentaires. Ça m'a pas aidé à suivre. Ce qui est plate, Rand Paul, c'en est un qui est quand même assez apprécié. Puis probablement, il y a de la triche pour, les sondages et autres qui donnent pas une poignée de qu'est-ce qui... que le monde est vraiment pour lui. Là. C'est comme les sondages faussés, puis probablement, quand il va arriver aux élections, il rentrera pas du tout. Ça va être à suivre. Je pense que ça faisait au-dessus de 10 ans que lui, il se présente aux élections puis il n'a jamais rentré. Ça serait quelque chose, faudrait que je regarde un peu plus son histoire. 9000 soldats américains basés au Japon sont relocalisés. Je vais vous donner ça dans la salle de communication, la salle de Minou. Et je pense qu'il y avait quelqu'un qui m'avait laissé un lien aussi. Et Jira, oui, ça, je vais aller voir ça avant de perdre le lien. OK, je vais regarder ça un petit peu plus tard. Bon, OK. Les soldats en question. Conscience du peuple encore. 9000 soldats basés au Japon ont relocalisé. Près de la moitié des soldats de la marine américaine à Okinawa, avec les membres de leur famille, seront transférés. 5000 d'entre eux quitteront Okinawa pour l'île de Guam, située dans le Pacifique. Il y aurait 40 000 personnes de l'armée américaine basées au Japon. Est-ce qu'il faut faire un lien avec la radioactivité ou quoi? Ou c'est pour en vue des déplacés, pour je ne sais trop quelle raison obscure? Ça peut être bien normal, j'en ai aucune idée. Puis ça, il y avait un lien avec CNN, excusez. Je vais aller voir ça. Il n'y a pas de vidéo. C'est C'était un peu la même chose, là. Il faudrait que je passe le traducteur dessus. Je vais revenir à mes liens. OK. Agents fédéraux, soldats armés commenceront la semaine prochaine à protéger la zone rouge pour le sommet de l'OTAN. Ah oui, ça, c'est le fameux endroit, je pense, à Chicago qui voulait, qui pensait possiblement évacuer Chicago. C'était un plan, là, mais que je pense pas qu'il va être mis à exécution, là. Je pense que mon niveau sonore est peut-être un petit peu bas, je sais pas. Ouais, là, peut-être un peu haut. Faut que je fasse attention à la position du micro. Ouais, c'est ça. Déjà, agents fédéraux, soldats armés, commenceront la semaine prochaine à protéger la zone rouge pour le sommet de l'OTAN. Manifester à Chicago faudra être fou. La semaine prochaine, il faudra s'attendre à voir des agents dans les rues en tenue de combat, un effort visible pour protéger le périmètre qui englobe les immeubles fédéraux situés dans le secteur chaud. L'opération Zone Rouge est dirigée par le Service fédéral de protection qui travaille avec les lois fédérales et les lois locales en prévision du sommet de l'OTAN prévu pour le 20 et le 21 mai prochain à Chicago. Même si les réunions auront lieu au McCormick Place, l'application de la loi fédérale vise à protéger une vaste zone dans le secteur où des milliers de fonctionnaires fédéraux et des dizaines de bureaux gouvernementaux sont situés. Les services de protection vont déployer du personnel supplémentaire à compter du 1er mai. En uniforme de combat, les agents seront munis d'armes à l'épaule, non létales, pour faire une démonstration de force. Les gens pourront entrer et sortir de la zone rouge, assurent les autorités. C'est assez spécial comment qu'il y ait des réunions comme ça, à un moment donné, ils prennent le monde en otage. Ça avait arrivé à un moment donné à Québec. Il y avait une section de Québec qui était quasiment évacuée, là, façon de parler. Mais c'était un petit périmètre, là, mais malgré tout. Puis là, le monde qui habite là-bas s'empoignait avec ça, là, c'est assez spécial. Sarkozy, Kadhafi, non, ça, je vais le passer. Là, mon sac, on prie, attends une petite minute. Ah oui, il y aurait ça peut-être. Fujishima. Ça, c'est pris sur Wikistrike. Il faudrait que j'aille voir la source. C'est le fun quand on est deux, parce qu'on peut se relancer. Quand une page l'autre, puis prend du temps, là, entre autres. Comme maintenant. Ça se peut-tu? Il y a du monde dessus ou c'est le site qui ne veut pas? Bon. Ah, OK, ça vient de passer. Fujishima, le début de la catastrophe, c'est maintenant la crise économique européenne. Les présidentielles en France, il n'en faut plus pour que nous oublions la catastrophe de Fujishima de mars 2011. Pourtant, la crise est loin d'être terminée. C'est même tout le contraire. TEPCO ajoute à la malchance ses boulettes et les risques d'assister à une catastrophe sanitaire majeure. Loin d'être écarté, devient petit à petit une effrayante réalité. Comme il est de coutume dans ce genre de crise, ce n'est pas sur le gouvernement que la population peut compter. Il y a à peine trois jours, le 24 avril dernier, la chaîne d'information japonaise ANN News diffusait un très inquiétant reportage sur la situation de la piscine de combustible usée du réacteur numéro 4 de la centrale de Fujishima. Cette information n'a tout simplement pas du tout été relayée par les médias français, très peu par les médias européens. Voici un reportage en question en japonais, ou je ne suis pas sûr, je vais aller cliquer dessus. Je vais peut-être aller voir pour voir les images, là, mais c'est en coupant le son. De toute façon, en japonais. Ouais, ça l'a magané. On voit les images, là. Mais on comprend rien. La situation est très critique, attendu que cette piscine à combustible usé des matériaux très hautement radioactifs, dont un contact seulement de 10 minutes suffirait à tuer une personne, et pleine, ces matériaux accusent une radioactivité au cesium-137, dans des proportions de 85 fois supérieures à ce que nous avons connu au cas de la catastrophe de Tchernobyl. Pour donner une idée, là, c'est pas reposant. Dans ce contexte, le traitement de l'information par des chaînes de télévision locales a de quoi faire froid dans le dos. Comme en seconde partie du documentaire, dans lequel le journaliste affirme benoîtement, je sais pas ce que ça veut dire l'expression, qu'en fait la nourriture n'est pas si contaminée que ça. Le Japon, japonais dormait tranquille. Puis là, il y a un lien qui donne Twitter, tout va bien, que je vais retransmettre là. Ça doit être une blague. Puis là, ben, ça continue. Là, c'est à voir. C'est une histoire à suivre. Ça, l'article est assez grand, mais c'est juste pour souligner que cette affaire-là, ça ne s'arrange pas. Là. C'est toujours les fameuses piscines qui inquiètent. Puis il y avait Injira qui m'avait donné un lien que je vais aller voir sur Monsanto. Malheureusement, en anglais encore. Je vais le passer sur Google Art. Même s'il ne traduit pas très bien. Là. Pas Google Art, c'est google.ca. Là. Excusez. Section traduction. Et j'arrive dessus. Bon, Monsanto et Arborgen. En tout cas, je ne sais pas comment prononcer, ça fait quasiment allemand, mais ça doit être anglais. Jeter leur dévolu sur des arbres GM, génétiquement modifiés, qu'il faut dire, j'ai l'impression, et des graminées. Nature News nous contente de posséder, de contrôler culture rivière. X est mal traduit. Monsanto et son spin-off Garden ont... jeter leur dévolu sur des arbres génétiquement modifiés et des graminées en dépit d'une vague d'objections par les scientifiques et les militants de l'USDA a fait de la sourde oreille à leur préoccupation plutôt aidée et encouragée par les plans de Monsanto. Bientôt dans les forêts ou dans un paysage près de chez nous, vous les arbres et les graminées Frankenstein. Fréquen, ça doit être Frankenstein, en tout cas. Très mal traduit, c'est l'enfer. Ces dernières années, Monsanto et Arborgen ont été l'élaboration d'arbres génétiquement modifiés, y compris des arbres génétiquement modifiés pour résister au Roundup de Monsanto, des arbres conçus avec une teneur en lignine réduite à faire appel à la fabrication du papier. De la construction, la lignine donne des arbres de leur résistance et de leur rigidité. Et arbres Terminator qui ne produisent pas de graines, la belle affaire, à Hawaï, il y a eu déjà des problèmes de contamination avec la papaye GM, le premier au monde arbre planté, maudit que c'est mal traduit, dans le commerce génétiquement modifié. Un arbre génétiquement modifié qui sont actuellement en cours de plantation est préparé par GM Eucalyptus malgré les nombreuses questions non résolues. Puis là, ben, ça continue là-dessus. Dans le fond, c'est que là, ils sont partis sur les arbres génétiquement modifiés puis qu'il y en a qui, ça a de l'air, qui sont intéressés par ça. Là. C'est une histoire à suivre. Là. On joue aux apprentis sorciers. Puis la traduction est vraiment pas terrible. Je vais regarder s'il y avait d'autres choses qui étaient écrites dans la salle. OK. Présentement, on n'est pas beaucoup, beaucoup. Quand même un spectateur, Ijira. Q3 Gandalf, c'est moi. Puis je ne sais pas combien... quand on est sur le stream, normalement, on est toujours plus sur le stream. Non, il n'y a pas vraiment d'autres choses. Bon, OK. Je vais regarder dans ma section de URL. Ah, oui. Fujishima, l'élite japonaise sauve une ville en Inde. Je pense que c'est une vieille nouvelle. Ça avait déjà passé cette affaire-là, mais je vais revenir là-dessus. C'est quand même de circonstance. ça vient de Wikistrike qui a été pris sur... Ah, il est encore là, loadé. Bon, c'est loadé. Ça viendrait d'un blog. Ça viendrait d'AgoraVox. Bon. Fujitsuma, l'élite japonaise s'offre une ville en Inde. Cette info date de janvier 2012, effectivement. Mais nous l'avions loupé. Alors, on se rattrape. En dépit des messages rassurants que seul perçant rarement, les différences médiatiques, la crise japonaise traverse depuis le début de l'accident de Fujitsuma demeure ingérable et affectera durablement l'avenir du pays. Mais cet avenir n'affectera pas tout le monde. La prochaine ville japonaise sera en Inde. Ça fait une drôle de... drôle d'affaire à dire, là. Le recouvrement achevé d'un des quatre quartiers éventrés par une tente en nylon est loin de constituer un début de résolution de la crise environnementale au Japon traverse. Le Japon traverse. Pour le comprendre, ce qui se passe derrière ce paysage pudique, je vous propose de regarder la situation en partant d'abord des décombres de la centrale de Fujitsuma sans éloigner progressivement un périple qui nous mènera jusqu'aux Indes. Sur le site même de Fujitsuma, il faut d'abord relever les conditions dramatiques et héroïques dans lesquelles les équipes sur place travaillent. Un quatrième employé âgé d'une soixantaine d'années est mort subitement le 11 janvier, officiellement d'un arrêt cardiaque. La police a emporté le corps pour l'autopsie. La température dans le secteur, dans le réacteur numéro 2, a effectué subitement une variation passant de 48,4 Celsius à 102 Celsius. Ça, il faut se rappeler, l'eau normalement à bout à 100 Celsius. Puis, il ne faudrait pas que les piscines montent trop en température. Hein? Le 12 janvier, puis atteint 142 Celsius le 4 janvier. Le 14 janvier, excusez. Une panne de la console selon TEPCO. Les travaux de construction de la tente du bâtiment numéro 2 ont été suspendus à partir du 5 janvier pour concentrer les efforts sur le bâtiment numéro 4, dont plusieurs pannes de murs ont été démolies. Plusieurs pannes de murs ont été démolies depuis novembre. Et il est acquis désormais que le couvert de l'enceinte de confinement de ce réacteur gît plusieurs dizaines de mètres de son emplacement d'origine. Le réservoir désalinisation du système de refroidissement de secours présente des fuites. 300 tonnes d'eau contaminée au cesium radioactif, 49 à 69 becquerels par centimètre cube ont été, trouvés le 13 janvier dans des tunnels proches de l'unité 3. Puis là, ça continue de même. Là, dans le fond, c'est pas rassurant. Puis là, je passerai à une pause musicale. Ça fait que je vais enchaîner ça, puis je reviens tantôt. En passant, ceux qui nous écoutent, profitez-en pour aller vous chercher un café. J'ai tiré un petit peu la musique pour quelques minutes. Ça fait que je reviens tantôt avec d'autres nouvelles.
Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so
don't stop me now.
Having a good time,
shooting star, leaping through the sky like a tiger.
a good time. I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me
now.
I'm
having a good time.
Don't stop me
now. Yes, I'm having a good time. I
don't wanna stop at all.
Ha-da-da-da-da-da-da-da.
Bon, je vais revenir en onde en musique un peu. Je vais monter mon volume pour m'entendre aussi. Je n'aime pas trop ça pas m'entendre. Bon. Il y a dans les nouvelles insolites, il y avait de quoi d'intéressant que j'ai ramassé ça, je m'en souviens plus où. Conscience du peuple, mais par contre, c'est que ça viendrait du Daily Mail et autres, entre autres. Puis dans le Daily Mail, il y a des images qui sont intéressantes. Il y aurait un ovni que la... Je vais aller dans le texte original, Conscience du peuple. Il y aurait un ovni qui aurait été vu par la NASA, du moins qui a été filmé par SO ou photographié, peu importe. Puis les images sont quand même assez étonnantes quand on va voir sur le Daily Mail. Je vous donne le lien tout de suite. Un petit copier-coller. Il faut aller voir l'image principale à côté du soleil. Il y a quelque chose, on dirait, comme une scratch dans l'image. Mais c'est pas du tout une scratch. Ce serait probablement, on suppose, un ovni. Là. C'est un ovni. En tout cas, c'est un objet volant non identifié, un vaisseau. Ça serait quelque chose d'assez assez gros. Puis je pense pas qu'ils avaient eu d'explication. Je vais lire qu'est-ce qu'ils disaient dans... l'article sur les consciences du peuple. Dans une petite minute, je fais plusieurs affaires en même temps. Bon, OK. La NASA a détecté un ovni près du soleil. Un article du Daily Mail et du Huffington Post. Propagande, le Big Show est proche. Il doit faire allusion au projet Blue Beam. Un objet étrange et inexpliqué avec une forme exceptionnelle et gigantesque a été repéré par l'Observatoire solaire héliosphérique SOHO de la NASA. L'objet volant non identifié n'a aucune ressemblance avec tout ce qui a jamais été repéré près du Soleil. Assurément, l'objet parvient à résister à la chaleur intense projetée par l'activité éruptive de la chromosphère et les hautes températures émanant de la fusion nucléaire produite à la surface de l'étoile. Les 12 instruments de bord de SOHO communiquent avec les grandes antennes de radio autour du monde qui forment un réseau Deep Space Network de la NASA qui sont employés pour la récupération de données. Jusqu'à maintenant, pas de commentaires de la part de la NASA. Les images sont assez spéciales. Puis là, je vais continuer juste en insolite pour l'instant. Oui, ça, je pense, c'est qu'est-ce que j'avais vu. C'était une espèce d'animal qu'on suppose qui a été génétiquement modifié, un animal OGM, finalement, qui aurait été trouvé sur une plage. Puis je vais aller voir le lien. Je pense qu'il y a une vidéo associée à ça. Ça vient de cotela.com info. On dit où la vidéo? Oui, il y a une vidéo. C'est ça, je pensais. Je vais passer ça à l'instant.
The carcass of a mysterious creature has washed up ashore at Seal Beach. The animal has sharp teeth, but no hair, and no one knows exactly what it is. KTLA's Olga Espina shows us the pictures from Seal Beach.
Like a little beast, like some little scary little monster type thing out of a storybook.
What is this thing? Karen Summers stumbled upon this monstrous-looking creature during her walk along the shore of Seal Beach Wednesday night.
There were no eyes. The mouth was had enormous teeth underneath where the jawbone is. The teeth came up very large.
It has no ears, and look at the feet. The toes or the nails on it are long and pointy. Public Works came out. They found the creature near the shore. They buried it. They said it looked like some kind of possum, but even they're not sure exactly what this thing was. Karen warned beachgoers.
I said, hey, there's some type of little beastly thing on the beach. Please don't have your dog go near it. And he came up and he said, oh, wow, that looks like the Montauk Monster.
She did some research on the so-called Montauk Monster, which has reportedly washed up on the shores off the East Coast. And she says there are definite similarities.
It just looked fierce. Like, I'm sure the surfers would not want to be bit by this thing.
So is it a monster? or the carcass of a dog, a raccoon, an opossum. No one really seems to know. The ocean is full of mysteries. And now that it's been buried, it appears this thing will remain one as well. In Seal Beach, Olga Ospina, KTLA 5 News.
Ça, je pense, c'est qu'est-ce qu'on appelle une chimère. Je crois, si je ne me trompe pas, que dans l'Antiquité, il y avait mention de chimère. Mais là, ça serait les chimères modernes, Madin Laboratoire. Là. Dans mes nouvelles... Ah oui, il y aurait peut-être ça. Il y avait du monde à l'aéroport de je ne sais pas trop quel endroit, Newark, qui aurait été... retardé par un bébé, je crois. Attendez une minute, il faut tomber dessus. C'est ça. Des passagers, ça c'est pris sous conscience du peuple en passant encore. La source, c'est Daily Mail. Okay. Des passagers de l'aéroport de Newark ont été retardés pendant des heures lorsqu'un terminal a été évacué à cause d'un enfant non testé devant les agents de la TSA. La transportation de sécurité administration TSA a déclaré que l'enfant n'avait pas subi des fouilles individuelles, raison pour déclencher l'alarme. Le père a passé le détecteur de métal suivi par la mère dans son le bébé est dans son carrosse. La mère et l'enfant ont déclenché l'alarme du détecteur. La mère a alors remis le bébé au père. Et a traversé le détecteur sans incident. La famille a ensuite poursuivi sa route en direction des portes d'embarquement sans que bébé ait passé le dépistage. Peu de temps après, la TSA s'est rendu compte de son erreur et s'est lancée à la recherche de la famille. Le protocole n'ayant pas été respecté, les mesures d'urgence ont été déclenchées, dont l'évacuation du terminal et à la recherche d'explosifs par la police de l'aéroport. Et couche explosive, peut-être, ça a une odeur. La situation a causé des retards massifs, des vols, et la famille n'a jamais été retrouvée parce qu'elle était à bord de l'avion. À bord de l'avion, c'est ça. Source Daily Mail. La folie de tout contrôler. C'est pas pire. Un milliardaire australien veut reconstruire la Titanic version 2. Wikistrike, encore une fois, je peux réussir le copier-coller. T'as une petite minute, mais prends de travers. C'est quoi le problème? T'as un problème bizarre, là. J'arrive pas à faire le copier-coller du morceau que je veux. Bon, je l'ai. Fantaisie de la page, là. J'arrive dessus. Pas vite, vite. Un milliardaire australien veut construire la Titanic 2. Milliardaire australien Cleaver Palmer a dévoilé lundi un projet pour la construction en Chine d'une réplique moderne du Titanic, dont le premier voyage entre l'Angleterre et New York est prévu pour 2016. Cleaver Palmer, qui fait fortune dans l'industrie minière, a passé commande au constructeur naval chinois CSC, Jimling Shipyard, je ne sais pas comment on prononce. Le cahier de charge stipule que le Titanic 2 respectera au centimètre le gabarit de l'original, un monstre réputé insubmersible qui a fait naufrage lors de son passage inaugural dans la nuit du 14 au 15 avril 2012, après avoir heurté un iceberg dans l'Atlantique Nord. Avec 840 cabines, 9 ponts, il sera à tout égard aussi luxueux que le Titanic, mais il sera évidemment doté de la dernière technologie, des systèmes de sécurité de navigation moderne, a expliqué l'industriel dans un communiqué. Le Titanic 2 naviguera dans l'hémisphère nord. Son voyage inaugural en Angleterre vers l'Amérique du Nord est prévu pour la fin 2016, a-t-il précisé. La marine chinoise a été invitée à escorter le transatlantique à cette occasion. Cette annonce survient au terme de la célébration du centenaire de la catastrophe. Il y avait le Costa Concordia, que les autres célébraient aussi le 100 ans du Titanic, puis les autres même ont coulé. C'est assez original, là. Je ne sais pas si les autres vont faire pareil. construit dans les chantiers navals de Belfast. Le Titanic a coulé en 3 heures, faisant environ 1 500 morts. Son épave repose à 3 800 mètres de fond. Propriétaire de la compagnie White Star Line, le Titanic était le plus grand paquebot de son époque. River Palmer a créé sa propre compagnie Blue Star Line. Ça, c'est la nouvelle qui viendrait de 7s7.be, qui est un média qui rapporte des nouvelles des fois assez, assez cocasses. Puis là, dans... Oui, santé, il y aurait... Attends une petite minute, il faut copier ça dans la salle de Minou. Ben, allez cliquer dessus. Ça load. Décidément, j'ai quasiment toutes les nouvelles de Wikistrikes. Ça n'a pas d'allure. La source d'un blog, Gaia Art Blog, quelque chose de même. Traitement pour le cancer des hommes est inefficace. La médecine factuelle, ça devrait peut-être dire actuelle, est une imposture. Nous pouvons planter un clou dans le cercueil de la prétention de la médecine traditionnelle à être scientifique et factuelle. Le traitement standard du cancer de la prostate est à l'ablation chirurgicale rapide et drastique de la prostate. Elle est pratiquée depuis des années sur la présomption que l'ablation élimine le cancer. Il n'y a pourtant jamais eu de moindre preuve documentant quelque peu la réalité de son efficacité, mais la chirurgie sort les chirurgiens sortent leur scalpel sans scrupule, laissant derrière eux une foule d'hommes impuissants et incontinents. Maintenant, pourtant, il existe des preuves, mais elles ne montrent aucunement. Ce sont tous des toubibs veulent entendre. Au lieu de cela, elle montre au contraire que dans la plupart des cas, la prostatectomie, en tout cas qui enlève, radicale pour le cancer de la prostate, ne présente aucun intérêt. Tout comme s'avère souvent fausse l'affirmation selon laquelle la détection du cancer précoce sauve des vies. Le traitement de routine s'avère inutile. À moins, naturellement, que vous voyez votre médecin qui empoche d'importantes honoraires grâce à la chirurgie et à chaque visite de son cabinet qui en résulte. L'étude indépendante rapporte aujourd'hui des conclusions de l'essai randomisé le plus grand du monde sur le traitement du cancer de la prostate, appelé prostate intervention versus observation triale, entre parenthèses, pivote. Il a commencé en 1994. Ils ont comparé l'ablation chirurgicale de la prostate par rapport à ne rien faire. Ils n'ont trouvé aucun avantage statistique en faveur de la chirurgie. Les conclusions ne sont pas encore imprimées. Elles ont été présentées à Paris lors d'une réunion de l'Association européenne urologie. 11 000 spécialistes du monde entier y ont assisté. Conclusions ont été accueillies par le silence, j'imagine, selon d'indépendantes. Contrairement aux réactions habituelles avant des conclusions d'essais à grande échelle, la mutilation d'annonces par l'intermédiaire des médias sociaux de l'Internet, rien ne s'est passé. Voici ce qu'un expert a déclaré. « Je n'ai vu aucun urologue enthousiaste traitant à propos de ceci. Pas d'accord avec les conclusions de Ben Chalacombe, urologue britannique, dit « Nous pourrions proposer un traitement plus léger, comme la radiothérapie ou la mise sous surveillance. Nous sommes meilleurs dans la Zunie, pour garder les hommes sous surveillance. Mais le fait est qu'il y a peu de preuves. S'il n'y a aucune efficacité de traitement plus léger, bien qu'il soit certainement rassurant, pas grand-chose montre que la méthode britannique de traitement moins agressif soit une amélioration par rapport aux approches juniennes. devrais dire peut-être approche des États-Unis, je ne sais pas quoi, approche junienne. Ça se dit mal. Imposture et autres boniments. Le fait que nous ment depuis des lustres sous de fausses bannières de la médecine factuelle, la peur sert à embringuer dans des tests inutiles, souvent dangereux pour le troupeau des gens, parmi lesquels beaucoup sont passés, sont pressés de subir traitements inutiles et souvent invalidants. Dans de nombreux cas, sinon la majorité, aucune preuve n'étayant de l'efficacité, soit de la vache sacrée de la détection précoce, soit de l'ardeur au traitement extrême. Puis là, ben, il continue comme ça. Dans le fond, c'est en train de tout remettre ça en question. Ça, c'est sûr que Wikistrike, ça viendrait de Gaia Earth Blog, quelque chose de même. Mais par contre, je ne sais pas s'il y a un lien plus officiel d'indépendant de rapport d'aujourd'hui. OK. On va aller voir sur quoi ça débouche. Décidément, Internet est lent aujourd'hui. OK. C'est peut-être plus officiel, cet lien-là. En tout cas, allez voir sur Wikistrike, vous allez trouver le lien. Moi, je vais terminer là-dessus. Je suis arrivé pas mal, j'ai pas mal épuisé mes nouvelles. Puis, je vais peut-être en revenir demain pour l'émission. Je ne sais pas comment ça va aller. Mais c'est sûr qu'on revient, puis c'est certain qu'il y a des émissions toutes les semaines, même si pour un mois, là, ça risque d'être un petit peu bizarre. Puis, ben, écoutons, c'est ça. Là. Le site Radio H2O, c'est en passant, Q3, il en profite, lui, pour essayer de tout revamper. On va avoir un nouveau site probablement plus cute que ce qu'il était, puis peut-être plus fonctionnel. Je ne sais pas c'est quoi toutes ces idées, il ne m'a pas tout dit. Ça fait que c'est une histoire à suivre. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en a dans les détails. Je vais trouver la musique de fin. Ouais. Puis, ben, écoute, probablement demain, là, ça va t'avoir. Thank you.